9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Emmanuel Macron a présenté vendredi son projet de loi contre le séparatisme. J'ai donc invité ce matin Jérôme Fourquet, l'auteur de L'Archipel français, Naissance d'une nation multiple et divisée, qui avait reçu le prix du livre politique l'année dernière. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Demain, Olivier Véran, le ministre de la Santé, décidera si les bars et les restaurants de Paris et de la Petite Couronne doivent fermer ou pas à cause de l'épidémie de Covid. Mais c'est toute la profession dans tout le pays qui est suspendue à ses lèvres. Flora Mikula, l'une des chefs françaises les plus réputées, nous expliquera pourquoi. Et l'on terminera avec le philosophe André Comte-Sponville. Lui aussi a beaucoup à dire sur la crise du coronavirus. Il vient de publier un dictionnaire amoureux de Montaigne, qui lui avait connu la peste et qui était tellement en avance sur son époque que 4 siècles après sa mort, il est toujours d'actualité. Est toujours aussi subversif. Jérôme Fourquet, vous êtes politologue, directeur du département opinion de l'IFOP. Vous avez reçu le prix du livre politique en 2019 pour ce livre, L'Archipel français, dont on avait beaucoup parlé à l'époque. Auparavant, vous aviez publié un livre sur les catholiques, à la droite de Dieu, sur les juifs, l'an prochain à Jérusalem et d'autres encore, et de multiples études. Le président de la République prépare donc une loi contre le séparatisme. Est-ce que le terme vous semble approprié à la France d'aujourd'hui ?
Alors effectivement, il y a tout un travail sémantique à opérer. Moi, je suis arrivé au constat, nous, que nous vivions dans une société qui était archipélisée, c'est-à-dire qu'elle était composée aujourd'hui de différents groupes qui continuaient de vivre côte à côte, avec des relations les unes entre les autres, mais sans forcément que l'affectio societatis, comme on pourrait dire, soit très très développée. Donc il y a une certaine forme de séparatisme soft qui peut exister dans notre société, mais ce n'est pas sans doute à celui-là que s'adresse le projet de loi du gouvernement, qui vise des formes beaucoup plus radicales et beaucoup plus dangereuses, notamment sur le plan sécuritaire, avec l'islamisme qui sans doute est principalement dans le viseur.
Effectivement, on a un problème avec le fondamentalisme, surtout s'il encourage le terrorisme, mais... Est-ce que l'on est menacé par le séparatisme ? Est-ce que vous pensez, parmi tous ces groupes que vous avez pu étudier, décrire, évidemment tout le monde pense à l'islamisme radical, mais d'autres mots sont prononcés en permanence, on y reviendra. Est-ce qu'on veut véritablement se séparer des lois de la République ou remplacer les institutions de la République par d'autres institutions ? Parce que c'est ça, le séparatisme.
Hein. Alors, on a un certain nombre de groupes et d'acteurs politiques qui ont ça comme agenda et comme objectif politique, qui sont très minoritaires. Ils menacent notre société dans la mesure où un certain nombre d'entre eux soit flirtent, soit carrément sont prêts à basculer dans la violence. Mais dans la grande majorité de la population, il n'y a pas une volonté de subvertir les institutions ni de recourir à la violence. Pour autant, la question qui se pose, c'est la flamme existe-t-elle encore pour exprimer un certain vivre ensemble. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de loi qui permette de légiférer ou de raviver la flamme. Et donc, il faut bien faire la part des choses.
Les monarchistes, par exemple, ils voudraient bien remplacer les institutions de la République par d'autres institutions. Ils voudraient rétablir la monarchie. Est-ce que ça en fait des séparatistes pour vous ?
Alors, je ne pense pas qu'eux soient séparatistes.
Tant que ce n'est pas par la violence.
Hein, tant que ce n'est pas par la violence. Et il y a la volonté aussi d'imposer un nouvel ordre culturel. Parce qu'il y a les institutions et puis il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Et donc, et ensuite, en termes de volume, le courant royaliste aujourd'hui en France est quand même assez marginal. Il a fait assez peu parler de lui.
Vous décriviez dans L'Archipel français une société devenue multiculturelle, un peu ce que vivent aussi les États-Unis. Le mot communautarisme n'a pas été ou quasiment pas prononcé par le président de la République. Et ce matin, dans le JDD, son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait qu'il n'y avait pas de problème de communautarisme. On appartient tous plus ou moins à peu ou prou à une communauté différente, pas forcément religieuse. Et ça ne fait pas pour autant, lui dit que Gérald Darmanin dit que lui, il appartient à la communauté des gens du Nord. Ça ne fait pas de lui un séparatiste.
Non, alors il faut bien faire la distinction entre le séparatisme, effectivement, qui est le degré absolu avec la volonté de subvertir les institutions et d'imposer un nouvel ordre ou un ordre de remplacement, et des tendances à la communautarisation de la société, c'est-à-dire on accepte le cadre républicain, mais on privilégie une appartenance communautaire et on ne cherche plus forcément à avoir tant de liens que cela avec le reste de la société. Ces tendances-là, qu'on le veuille ou non, qu'elles nous fassent plaisir ou non, elles existent dans la société française. Et c'est sans doute assez douloureux à accepter ou à constater pour toute une partie de la population, parce que ça ne fait pas partie de, notre, de nos références, de nos modes de représentation de nous-mêmes. Et pendant très longtemps, on s'est un peu gaussé des Anglo-Saxons, des Britanniques, des Américains, en disant « voilà, regardez, cette société est quand même très très bizarre. Nous, la République est une et indivisible, elle ne reconnaît pas les couleurs. » Et force est de constater que ce n'est pas aussi simple que ça. Et nous avons aujourd'hui, de facto, sans que ça aille forcément jusqu'à du séparatisme, des groupes culturels, sociaux, qui, on le voit par exemple dans les grandes métropoles, se regroupent géographiquement plutôt en fonction de leurs affinités, choisissent telle ou telle école pour leurs enfants, évitent de côtoyer tel ou tel quartier. Et donc, on n'en est pas à un séparatisme, mais il y a ces ferments d'archipélisation, que c'est le terme que j'ai préféré à celui de communautarisme, mais on est un peu sur la même logique.
Emmanuel Macron visait clairement, il l'a dit, l'islamisme radical. Certains lui ont reproché de ne pas faire allusion également au séparatisme des riches. Or, vous, vous aviez traité le sujet hein, dans l'archipel français. Vous parliez de sécession des élites. C'était pas loin du séparatisme.
Alors, voilà. Alors si, encore une fois, si on s'en tient à la définition que le président ou le ministre de l'Intérieur ont retenue, le séparatisme vise à remplacer l'ordre républicain. Une partie des groupes que j'ai étudiés dans ces élites ne vise pas du tout à remplacer les institutions, mais ont développé des stratégies d'évitement et de regroupement dans tel ou tel quartier, dans telle ou telle école, qui a abouti aussi au fait que toute une partie de cette population soit assez peu à l'écoute aujourd'hui et assez surprise de certaines réactions qui ont pu exister. Je me souviens par exemple au moment de la crise des Gilets jaunes, où dans certains beaux quartiers de Paris ou d'ailleurs, on était très très désemparés face à ce qui se passait, un peu comme, et je reprends là la formule d'un essayiste américain qui s'appelle Thomas Frank, comme si ces gens vivaient comme des touristes dans leur propre pays. Donc il y avait cette forme-là. Mais,
vous étiez allé plus loin, vous aviez même accusé un certain nombre de journalistes à la télévision d'être dans ce cas-là aussi, de ne pas comprendre ce qui pouvait se passer dans la rue.
C'était effectivement quelque chose d'assez surprenant et très, très, très brutal dans son surgissement, cette crise des Gilets jaunes. Mais au regard des réactions d'un certain nombre de vos confrères, on pouvait être assez interloqué en se demandant si ils vivaient vraiment dans le même pays que nous, en fait.
On fait une pause, Jérôme Fourquet, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Jérôme Fourquet, dans l'archipel français, vous décriviez la France comme une nation multiple et divisée, donc différente de cette France une et indivisible que nous avions rêvé ici en France. Elle avait déjà précédemment été très multiple et très divisée. Avant la guerre de 14, on prenait toute la France, on ne se nourrissait pas pareil selon que l'on habitait au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, on ne s'habillait pas de la même façon, on ne parlait pas la même langue. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire que si on était né à la ville ou à la campagne, on n'avait pas du tout la même existence et on ne se connaissait pas. Les ouvriers ne connaissaient pas les bourgeois et vice-versa. Un garçon et une fille, ça n'était pas la même vie non plus. Un Français ou un étranger, c'était très très différent. Et je parle évidemment des immigrés qui existaient déjà. On pourrait dire qu'aujourd'hui, au fond, on ne s'est jamais autant ressemblé, non ?
Alors, oui et non. Le constat que vous dressez est exact. Et il nous permet de rappeler que cette idée d'une nation une et indivisible était un espèce de mantra politique qui, dans les faits, laissait quand même à désirer. Pour autant, nous avions un certain nombre de ciments qui donnaient une ossature et une armature très très forte à tous ces groupes régionaux et sociaux. Je parle dans le livre d'une matrice catho-républicaine avec ces deux grands piliers qui faisaient que la société avait à peu près la même cohésion et la même cohérence d'un bout à l'autre de l'Hexagone. Et vous rappelez à juste titre qu'en Bretagne, en Béarn ou ailleurs, les langues régionales étaient très fortement employées, mais que pour autant, dans chaque village, il y avait les blancs, les rouges,
les catholiques
et la gauche et les communistes ensuite. Et ces piliers se sont disloqués en l'espace de quelques décennies. On est passé des années 60 à 35% de catholiques pratiquants en France à 5 ou 6% aujourd'hui. Le Parti communiste, j'allais dire quasiment dans la même trajectoire, est passé de 20% des voix à 2,5% des voix. Et aujourd'hui, toutes ces forces de rappel, ces éléments qui donnaient une cohésion, ont disparu. Et parallèlement, d'autres lignes de faille se sont apparues. La France a connu des vagues migratoires très importantes avec des populations qui viennent d'une ère culturelle qui est très différente de la nôtre. Donc ça rajoute à la diversité, à la diversification de la population. Sur un autre plan socio-économique, celui-là, un autre acteur a joué un rôle très unifiant dans notre société, c'était l'industrie. Avec le processus de désindustrialisation, on a toute une série d'organisations et toute une cohésion sociale qui a été mise à mal. Et donc, la France, aujourd'hui, est sans doute plus diverse qu'elle ne l'a été, sans pour autant idéaliser, s'il fallait le faire, un passé où tout aurait été totalement homogène.
On pourrait dire en effet que le XXe siècle, ça a été le siècle de la massification. Hein. On était formaté par les grandes idéologies, par les masses médias, par les grandes villes, la grande distribution, les grandes vacances qu'on prenait tous en même temps. On voulait tous la même chose, on voulait tous s'intégrer. Et puis à partir des années 80, il y a eu les dérégulations, la concurrence, la mondialisation, la multiplication des radios et des chaînes de télé, le câble, le satellite, puis Internet. Au fond, c'est la société de consommation qui s'est installée, et elle s'est installée dans tous les domaines.
Alors, tout à fait, avec un élément, à mon avis, très puissant derrière tout cela, à la fois en matière économique et sociale, mais aussi dans tous les compartiments de la vie, c'est la montée en puissance de ce que les sociologues appellent l'individuation et l'autonomisation de l'individu d'un certain nombre de ces grandes matrices structurantes. Et donc, le parti, la famille, le syndicat, mais aussi la classe sociale, les façons de consommer. Quelques chiffres, jusqu'à la fin des années 90, on a 10% seulement des naissances qui sont des naissances hors mariage en France. On est aujourd'hui à 60%. Jusqu'au milieu des années 60, la France fonctionne avec 3000, 4000 prénoms différents chaque année pour appeler les enfants. On a plus de 16 000 prénoms différents.
Ça, c'est donc la loi de 93, hein, qui a ouvert à tous les prénoms qu'on voulait. Avant, ça n'était que les prénoms catholiques.
Voilà, les prénoms du calendrier. Et donc, on voit que derrière tout ça, à chaque fois, et vous parlez des grands médias, vous parlez de la grande distribution, on voit que l'individu, aujourd'hui, cherche de plus en plus à se distinguer, à se différencier. Et la société de consommation, qui n'est jamais en retard, fournit à cet individu qui veut se démarquer des moyens de le faire. Et donc, encore une fois, tout ça vient corroder toutes les appartenances ou les matrices qui nous ont historiquement structurés.
Oui, puisque c'est dans tous les domaines. Hein. Les prénoms, vous l'avez dit, mais aussi les religions, la nourriture, les sources d'information. On peut tous se distinguer. Est-ce que vous n'y voyez pas aussi, et j'ai l'impression dans mon souvenir que c'était présent dans votre livre, une crise de l'autorité? Avant, il y avait des gens, des castes, des professions qui faisaient autorité. Pour les prénoms, c'était le cas. C'était d'abord l'aristocratie, les riches, la grande bourgeoisie qui adoptaient certains prénoms. Et puis, au fur et à mesure d'un certain temps, ça descendait dans les classes populaires. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les arabo-musulmans préfèrent des prénoms musulmans. Les classes populaires préfèrent des prénoms américanisés. Ryan, Kevin. Les juifs préfèrent des prénoms juifs, etc. etc. Et c'est vrai dans toutes les classes de la société. Tout le monde veut se distinguer.
Tout le monde veut se distinguer. Et dans une société qui s'individualise de plus en plus, le fait de déléguer une parcelle de sa souveraineté à des autorités ou à des instances qui seraient légitimes pour le faire, va de moins en moins de ça, de moins en moins de soi. Et nous avons, parallèlement à ce phénomène de fragmentation, et sans doute ce n'est pas complètement décorrélé, une montée de la défiance avec, on l'a vu, je reprends aussi encore une fois l'exemple des Gilets jaunes, une très forte difficulté à, encore une fois, déléguer sa souveraineté ou sa parole à d'autres. Hein. Vous voyez bien que dans ce mouvement-là, qui pour moi était très très révélateur de notre société actuelle, à chaque fois qu'un leader avait émergé, on lui a coupé la tête. Et donc c'est un peu pareil dans les partis.
Mais ça ne fait pas d'autant de séparatisme pour autant. Hein,
que ce soit bien clair,
on décrit une société multiculturelle. Merci Jérôme
Merci
Fourquet.
Merci à vous.
On se retrouve juste après une pause.
Europe 1. C'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Bonjour Flora Mikula, vous êtes l'une des chefs françaises les plus réputées. Vous travaillez pour plusieurs établissements en France. Les restaurants, bars et cafés parisiens attendent les décisions qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, va annoncer demain lundi en ce qui concerne la capitale et la petite couronne. Les bars qui ferment déjà leurs portes à 22h risquent de devoir fermer complètement. Les restaurants pourraient également fermer, comme à Aix et à Marseille, ou rester ouverts. On le saura demain. Alors Flora, qu'est-ce que ça fait à votre profession de se retrouver en première ligne? L'idée que la propagation de l'épidémie dépend en priorité de l'ouverture ou de la fermeture des bars et des restaurants.
On a un peu l'impression d'être des pestiférés. Normalement, un restaurant, un bar, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de convivialité.
Mais c'est bien le problème, peut-être.
Où on aime bien être. Et là, on a vraiment l'impression que l'épidémie va se concentrer chez nous, quoi. Qu'elle n'est pas ailleurs, qu'elle n'est pas dans les halls de gare, qu'elle n'est pas dans un théâtre, ou juste au travail, ou dans les écoles. Enfin, qu'elle est vraiment que chez nous, quoi.
Il y a aussi les salles de sport et de yoga
et
qui sont fermées.
Salles de sport et yoga. Donc le pilate, on a le droit, mais pas le yoga, peut-être.
Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une activité professionnelle problématique ?
Non, je crois qu'on a, alors on a bien compris le message, parce que pour manger, obligatoirement, on est obligé d'enlever le masque. Donc on met tout sur ce masque, en fait. On a l'impression que dès qu'on met le masque, il ne peut plus rien nous arriver. Alors que le milieu médical ne sait pas trop.
Il a l'air de savoir quand même.
J'ai encore eu mon fils, moi, la semaine dernière, qui avait tous les symptômes du corona. On a fait venir SOS médecin. Il était persuadé qu'il l'avait. Il m'a dit, on fait le test au cas où. Et on a fait le test, il était négatif. On est un peu dans le flou quand même. Et on en a un peu marre.
Le problème, vous le savez, sur les hôpitaux publics, on redoute qu'à un moment donné, comme en mars, il n'est plus assez de lits ni assez de personnel pour accueillir tous les malades, ceux du Covid et ceux qui souffrent d'autres pathologies. Au fait, c'est ça qui obsède aujourd'hui le gouvernement, et pas seulement le gouvernement, évidemment. Revenons aux bars et aux restaurants. La différence entre les deux, puisque les bars sont déjà fermés jusqu'à 22h, ils risquent d'être fermés totalement. La différence, c'est que les bars pratiquent la vente de boissons et de à titre principal, et les restaurants pratiquent le vente de repas à titre principal. Mais bon, on peut aussi manger dans des bars, on peut aussi boire dans les restaurants. On se dit que c'est peut-être la distance entre les clients qui n'est pas la même. On serait plus serrés les uns contre les autres dans les bars, notamment l'alcool aidant.
Oui, alors ça, c'est bonne excuse, mais enfin, à Paris, je vais parler de Paris, parce que c'est là où je connais le mieux, mais quand même, les endroits sont petits, mais c'est de plus en plus la mode qu'un bar devienne restaurant, et on n'a jamais fait la différence, quoi. On peut grignoter. Alors qu'on ne soit plus debout collés les uns aux autres, alors dans ces cas-là, on n'est plus debout collés les uns aux autres sur les quais de Seine, dans les parcs.
Et dans les transports en commun.
Et dans les transports en commun. Donc c'est pareil. On a déjà stigmatisé les discothèques et on a fait beaucoup d'efforts dans la restauration. Nos établissements à Paris ou même dans d'autres villes, enfin, toute la France est concernée. Les salles de 50 couverts sont passées à 35, 40. Donc c'est toujours un manque à gagner. Et puis votre personnel, il est toujours là. C'est pas parce que vous allez faire 35 couverts. D'abord, vous savez jamais en restauration combien de couverts on va faire. Malheureusement, c'est pas comme les vaccins. Au bout de 100, on arrête d'en donner. Nous, on ne sait pas. On ne sait jamais où on va. Déjà en temps normal. Mais alors là, vous imaginez bien que c'est difficile.
La profession est déjà terriblement fragilisée par les 2 mois et demi de fermeture imposée par le confinement.
Oui, là, on savait déjà que... alors, il y a eu un élan quand on s'est déconfiné, où les gens sont retournés dans les restaurants, dans les bars, on a envie de sortir parce que c'est la vie aussi. C'est la vie, le restaurant, le bar, on a envie de sortir de chez soi, surtout quand on est resté enfermé pendant 2 mois et demi. Et là, depuis qu'on reparle et qu'on nous a remis en avant, on a l'impression que tout le virus est concentré dans les bars et les restaurants. Parce que les gens écoutent les médias. Et puis en plus, on n'explique pas, on ne comprend pas, personne ne comprend vraiment. Donc forcément, on est en train d'encore plus nous enfoncer.
Comment ça se passe pour les stocks de nourriture, les stocks de produits frais ?
Ah ben si c'est comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a été prévenu à 20h pour minuit, un samedi soir, sachant que la plupart des restaurants, le gros du business se fait le week-end, Bien écoutez, quand le personnel est parti avec la moitié, ce qu'il y a, trois quarts, ce qu'il y a dans les frigos, ben, le reste, on ne sait pas. Et puis, ben, c'est, ça part à la poubelle. Donc, c'est pareil, c'est compliqué.
Aides,
quoi.
Les aides annoncées par le gouvernement, le chômage partiel, pris en charge à 100%, les exonérations de charges sociales et fiscales. Et si l'employeur le demande, il peut obtenir jusqu'à 10 000 euros par mois du fonds de solidarité en fonction de son chiffre d'affaires. Est-ce que ça peut suffire ?
Et non, parce que comme vous dites très bien, alors ok, on remet le personnel au chômage, qui va toucher petit à petit moins, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis ce fonds de solidarité sur le chiffre d'affaires, ça couvre quoi ? Les loyers, on fait comment ? Les crédits qui sont en cours ? Et puis ces crédits qu'on nous a accordés il y a quelques mois, on sait qu'il fallait les rembourser assez vite, sinon après, on allait repartir dans des taux. Les assurances qui n'ont pas fonctionné pour tout le monde, enfin non, on repart en guerre, quoi. Et là, puis déjà, des établissements qui étaient fragiles, là, c'est vraiment leur mettre le pied dans la tombe.
Certains de vos collègues sont particulièrement pessimistes. Ils disent que c'est la condamnation à mort de toute une profession. On n'imagine pas la France perdre ses restaurants, ses bars ou ses cafés. Ça semble impossible.
Ça semble impossible. On a toujours été... on vient en France pour manger, pour boire, pour ces moments de festifs, que ce soit dans les grandes villes, les petits villages. Mais, et puis c'est l'isolement. Enfin, je veux dire, les gens viennent aussi pour rencontrer des gens. Enfin, c'est terrible. On va tous finir devant nos séries et sur les téléphones portables. On est déjà bien accrochés. Mais alors là, c'est quoi ? C'est fini, quoi. Il y a plus de contact. Il y a plus de vie, quoi.
Mais si justement on n'arrive pas à l'imaginer, c'est parce que ça nous semble impossible. Ça ne peut pas arriver.
Non.
On vous sauvera.
Non, il faut se rebeller. Il faut se rebeller et pas se laisser faire. Parce que, OK, si on nous dit, voilà, tout le monde est reconfiné, tout le monde reste chez soi pendant encore 15 jours ou 3 semaines, là, on l'acceptera. Il n'y a pas de souci, on comprendra. Si on nous explique par A plus B, dans ces cas-là, on est tous à la même enseigne. Les enfants ne vont plus à l'école, il n'y a plus rien qui se passe, comme il s'est passé pendant 2 mois. Il n'y a pas de souci. Mais là, que nous, non. On dit non et on va se rebeller. Puis vous savez bien que les Français, c'est un peuple de rébellion.
Merci Flora Mikula. On se retrouve dans un instant avec un philosophe, c'est André Comte-Sponville.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous publiez un dictionnaire amoureux de Montaigne chez Plon. Montaigne, c'est un philosophe dont les essais sont toujours d'actualité. Il faut dire qu'il avait une avance considérable sur son époque. Il a vécu la peste, notamment, pendant qu'il était maire de Bordeaux. Est-ce que sa lecture permet de mieux appréhender l'épidémie à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés ?
Ça permet de la relativiser ou d'en relativiser l'importance. Rappelons que la peste du temps de Montaigne avait un taux de létalité, donc un taux de mortalité pour les gens contaminés, proche de 100%. Rappelons que le taux de létalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,5%. C'est-à-dire que la peste, en gros, était à l'époque 200 fois plus dangereuse, 200 fois plus mortelle que la Covid-19 aujourd'hui. Donc, ça met un petit peu les choses à leur place. Cela dit, Montaigne, et certains aujourd'hui se plaisent à lui reprocher, quand la peste est arrivée, il a fui Bordeaux. Et ce n'est pas moi qui le reprocherais. C'était à l'époque le seul geste barrière concevable. Il y avait d'ailleurs un dicton latin qui résumait la stratégie usuelle. « Pars vite, va loin, reviens tard ». C'est ce qu'a fait Montaigne et aucun de ses contemporains ne le lui a reproché. C'est pourquoi je m'amuse aujourd'hui quand je vois tel ou tel journaliste faire la leçon à Montaigne alors qu'il se protège bien prudemment contre la Covid-19. Disons qu'aujourd'hui, Montaigne porterait évidemment le masque dans le métro par prudence, peut-être aussi dans la rue, mais plus par obéissance que par conviction prophylactique. Et surtout, parce qu'il a le sens de l'obéissance, sauf qu'il garde sa liberté de l'esprit. Il l'écrit dans les essais. « Ce n'est pas ma raison qui se plie, ce sont mes genoux. »
Il ne dramatisait pas.
Voilà, si on peut... je dis dans l'article PES de mon dictionnaire amoureux qu'il n'en faisait pas toute une maladie. Parce que d'abord, il sait bien qu'il est mortel. Ça fait longtemps qu'il a compris la chose. Il dit, là, moi, je n'ai pas d'information médicale, mais qu'il a vu des gens mourir de la peste. Peut-être la Boétie. Certains pensent que la Boétie est mort de la peste, on s'en est pas sûr. Il a vu des gens mourir de la peste, il pense que ce n'est pas une mort pire que les autres, qu'elle est même à certains égards plutôt plus douce. Il y a relativement peu de souffrance. Et puis comme tout le monde meurt autour de vous, ça fait une espèce de consolation. On ne se sent pas victime d'une injustice. Et donc il part avec sa famille, il prend les précautions. Enfin, il se protège autant qu'il peut. Et la seule protection à l'époque, c'était la fuite. Mais il ne perd ni son bon sens, ni sa sérénité, ni sa liberté d'esprit.
Et vous avez signé la tribune initiée par Laurent Mucchielli et Laurent Toubiana et Jean-François Toussaint, publiée sur le blog de Mediapart, le blog de Mucchielli, justement, contre la peur, contre l'aveuglement qui gouverne aujourd'hui, contre les interprétations erronées des données statistiques et contre les mesures administratives disproportionnées. En voyant votre signature, je me suis dit, ça, c'est la lecture de Montaigne.
Disons, c'est pas forcément seulement la lecture de Montaigne, mais je pense que Montaigne aurait signé cet appel, en effet, parce que, encore une fois, moi je respecte les gestes barrières, j'ai respecté parfaitement le confinement, hein, etc. Et je pense qu'il faut le faire. Non, ce qui nous inquiète dans cet appel, c'est cette espèce de politique de la peur. Je prends un exemple plus récent, postérieur à cet appel, mais qui me choque beaucoup. Il y a une publicité tous les jours à la télévision, financée par le ministère de la Santé, donc par nos impôts, qui montre de très jeunes enfants embrassant leur grand-mère, et puis on change de plan, la grand-mère est à l'hôpital en réanimation, possiblement en train de mourir. Mais vous imaginez la frayeur des gamins qui ont embrassé leur grand-mère deux jours ou trois jours plus tôt, qui se disent « mais peut-être je vais être responsable de sa mort ». Est-ce que c'est pour ça qu'on paye nos impôts, pour faire peur à nos enfants ? Là, il y a une stratégie de l'effroi que je trouve tout à fait contre-productive. On va mieux plutôt rassurer, expliquer aux gens. Effectivement, il faut respecter les gestes barrières, porter le masque, tout ça, ça va de soi. Mais arrêtons de rajouter de l'angoisse à de l'angoisse pour une maladie qui, encore une fois, est très peu mortelle. Il y a tellement plus grave dans le monde et dans la vie qu'une pandémie de coronavirus.
De même, vous avez été l'un des premiers, avant Nicolas Bedos, avant Vincent Lindon, et l'un des rares à vous être élevé contre la stigmatisation dont la jeunesse est victime dans ce pays depuis le déconfinement. On se souvient que dès qu'elle est sortie de chez elle, notre jeunesse, et qu'elle a voulu prendre un verre sur le canal Saint-Martin à Paris, on lui a envoyé la police.
Alors ça, c'est le pire. C'est-à-dire qu'on voue des centaines de milliers de jeunes au chômage. Le chômage des jeunes qui commençait à reculer est en train de s'envoler. Il y a 600 000 ou 700 000 jeunes qui ont fini leurs études en juin ou en juillet, qui arrivent sur un marché du travail sinistré, comme il ne l'a jamais été depuis au moins la crise de 29. Et non seulement on les voue à un chômage massif, mais en plus, on leur fait la leçon, on leur reproche d'oser sortir, faire du sport, danser, voir leurs copains. Mais de qui se moque-t-on ? Et tout ça pourquoi ? Pour protéger la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Écoutez, moi j'ai trois enfants, trois garçons qui sont des trentenaires. Je me vois vraiment mal leur dire, écoutez les enfants, ne sortez pas le soir, allez pas voir vos copains, pensez un peu à la santé de votre vieux papa. Non, mais c'est absolument ridicule, moi je leur dis le contraire. Profitez de la vie, protégez-vous, soyez prudents pour vous. Mais pour ce qui est de ma santé, ne vous faites aucun souci, je m'en charge. Si je veux me confiner, me cloîtrer chez moi, je peux le faire. Mais je ne vais pas demander à mes enfants de ne pas sortir pour protéger ma santé. Je trouve que là, il y a une injustice quasi obscène vis-à-vis de la jeunesse d'aujourd'hui, qui a une situation matérielle extrêmement difficile. On veut ajouter en plus la privation de loisirs et la culpabilisation. Je trouve ça proprement inacceptable.
D'ailleurs, Vincent Lindon vous a cité, je crois, peut-être sans le savoir, quand il a dit avant, c'était les parents qui se sacrifiaient pour leurs enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qu'on sacrifie pour les parents.
C'est ça. Autrement dit, la solidarité intergénérationnelle, je l'ai en effet souvent dit, elle est traditionnellement orientée, donc asymétrique. Les parents se sacrifient pour leurs enfants, évidemment beaucoup plus que les enfants ne se sacrifient pour leurs parents. N'importe quel père, n'importe quelle mère donnerait sans hésiter sa vie pour ses enfants. Lequel d'entre nous accepterait que ses enfants donnent leur vie ou même compromettent leur vie pour la nôtre ? Mais aucun, bien sûr, aucun. Et donc, ça fait 200 000 ans, en effet, que les parents se sacrifient pour leurs enfants. On est en train d'inventer le modèle inverse. On ne fera pas croire que c'est un progrès.
On continue de parler du dictionnaire amoureux de Montaigne avec André Comte-Sponville dans un instant.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
André Comte-Sponville, dans votre dictionnaire amoureux de Montaigne qui vient de paraître chez Plon, on s'aperçoit que cet homme était tolérant en un siècle qui ne l'était guère. Mais on en est au point de se demander, croyait-il en Dieu ?
Eh bien, personne n'en sait rien. Je n'en sais rien et personne ne le sait. Il se dit catholique, hein, incontestablement dans les essais, mais enfin, il aurait dit le contraire. S'il s'était dit, par exemple, athée ou agnostique, il risquait fort de finir brûlé. En tout cas, il n'aurait jamais pu publier les essais. Et donc, l'Église est un peu punie par où elle a péché. Dès lors que le catholicisme était quasi obligatoire, bah, ça rend un peu suspect tous les aveux, justement, de catholicisme. Les spécialistes en discutent. Mon idée à moi, c'est que Montaigne était un catholique... De convenance sociale, voire sociétale. Il a été élevé dans le catholicisme, il va à la messe. Au fond, il croit peut-être bien en Dieu, sauf qu'il écrit, et la formule est belle dans les essais, il écrit « Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands ». Alors, mon vieux maître et ami Marcel Conche commente cette phrase en disant « Dès lors que Montaigne est incontestablement périgourdin, il est tout aussi incontestablement chrétien », ce qui est vrai, sauf que une fois qu'on, celui qui se dit « je suis chrétien parce que je suis périgourdin », autrement dit, par le hasard de la naissance, ben, il n'est pas chrétien au même sens que celui qui croit être chrétien parce qu'il a été élu par Dieu, qui lui a donné une grâce spéciale. Autrement dit, pour un vrai chrétien, la foi est une grâce. Pour Montaigne, la foi est un hasard. Et il assume ce hasard. Dès lors qu'il est en effet né périgourdin, il est chrétien et en l'occurrence catholique.
Mais c'est fou, il est d'avance considérable sur tout le monde, Montaigne. Il est, vous le rappelez, contemporain de la conquête de l'Amérique par les conquistadors. Et il prend parti pour les vaincus, pour les Indiens.
Oui, c'est l'un des très rares dans tout le XVIe siècle à prendre résolument le parti des Amérindiens contre la barbarie des conquistadors.
Et il l'écrit,
il l'écrit complètement. Il parle de la barbarie des conquistadors, il dénonce, il fait l'éloge au contraire du courage héroïque des Indiens. Oui, parce que ce qui est formidable chez Montaigne, c'est qu'il est à la fois, et c'est au cœur de sa modernité, il est au cœur des débats d'aujourd'hui, parce qu'il est à la fois relativiste et universaliste. Relativiste parce qu'il sait bien que chaque culture est différente des autres et que chacun juge en fonction de sa culture. Par exemple, il écrit, la formule est célèbre, « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ». On dit « Le barbare, c'est l'autre culture ». Et Lévi-Strauss, relativiste aussi, célébrait justement ce qu'il appelait ce relativisme sans appel de Montaigne. Sauf qu'en même temps, et c'est ça l'enjeu intellectuel décisif, sauf qu'en même temps, il est universaliste parce que l'humanité est une. Et la raison est universelle dans son principe même. Tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition, écrit Montaigne. J'embrasse un Polonais aussi bien qu'un Français. Et puis, se référant à Socrate, il écrit « On demandait à Socrate d'où il était. Socrate ne répondit pas d'Athènes, il répondit du monde ». C'est le cosmopolitisme ancien, au sens littéral, citoyen du monde. Eh bien voilà, Montaigne est citoyen du monde, relativiste. Il ne juge pas toutes les cultures à partir de la sienne, universaliste. Il a le sens de l'unité de l'humanité et de l'universalité de la raison.
Il a le sens de la provocation aussi. Pour lui, la cruauté est le pire vice des êtres humains. Et il écrit qu'il y a moins de barbarie à manger un homme une fois qu'il est mort, comme le font les cannibales, qu'à le torturer pendant des heures alors qu'il est bien vivant, comme le font à vous même moment les catholiques.
Exactement, et au fond, il a raison. Mais vous voyez, l'exemple des cannibales est révélateur, parce qu'au fond, c'est vrai que spontanément, il y a peu de choses qui nous paraissent aussi atroces que l'anthropophagie. Et pourtant, Montaigne, avec ce recul critique, sa liberté d'esprit toujours surprenante, et à juste titre, dit qu'en effet, il est moins grave de manger le corps d'un homme mort que de torturer le corps d'un homme vivant. Et il le dit encore une fois à une époque où la torture, notamment judiciaire, était pratiquée tous les jours. Autrement dit, il se bat contre des dangers réels de son temps. Et là encore, il est presque seul à le faire.
Et où en plus, la torture était devenue un spectacle. Déjà à ce moment-là, selon la gravité du crime, on était exposé devant la foule, devant le public, et on était torturé.
La torture était un spectacle, et chez les conquistadors, elle passait pour un mérite. Ils s'en vantaient, et c'est ça qui horrifie Montaigne, qu'on puisse se vanter de quelque chose qui est l'horreur même. Alors, il faudrait se demander pourquoi Montaigne est tellement moderne, tellement libre par rapport aux préjugés de son temps. À mon avis, l'une des raisons, c'est que Montaigne est assurément un philosophe, mais c'est un philosophe, je dirais presque sans philosophie, sans doctrine, sans idéologie. Or, toutes les doctrines vieillissent, toutes les idées vieillissent, toutes les idéologies vieillissent. L'humanité ne vieillit pas. Et c'est parce que Montaigne écrit au plus près de lui-même, de sa sensibilité d'être humain, qu'il est si proche de nous. S'agissant de la torture, il ne se demande pas s'il y a une justification théologique à la chose. Simplement, il est physiquement horrifié. Et c'est cette proximité de Montaigne avec lui-même, encore une fois, qui explique la proximité qu'il a avec nous.
Il prête également aux animaux une conscience comparable à la nôtre. Il lutte contre ce qu'il appelle cette royauté imaginaire qu'on nous donne sur les autres créatures. Qu'on nous donne, c'est la Bible, hein, forcément, qui est visée, puisque la Bible nous met au-dessus des animaux. Est-ce que c'est pour autant un antispéciste avant la lettre, à votre avis ?
Ah, dans certains passages, il n'est pas très loin de l'antispécisme. Et donc, il va plus loin que moi sur ce chemin-là, parce que moi, je suis humaniste. Et donc, un humaniste est forcément quelque chose de spéciste. Hein. On ne me fera pas croire que tous les êtres vivants sont égaux en droit et en dignité. Je pense qu'un être humain est supérieur en droit et en dignité à un ver de terre, par exemple. Mais Montaigne, qui parfois pousse le bouchon un peu loin, c'est surtout qu'il a parfaitement conscience, là encore, à cause de cette sensibilité qui est la sienne, du fait que les animaux sont des êtres vivants. Et il écrit joliment « Nous devons la justice aux humains ». Alors ça, ce n'est pas antispéciste, parce que la justice est propre au rapport avec l'autre homme. « Nous devons la justice aux humains, la grâce et la bénignité aux autres créatures. » La bénignité, c'est la bienfaisance, vouloir du bien à. Vous voyez ? Et j'aime beaucoup cette phrase-là. Là, je l'assumerai volontiers. La justice aux humains, on n'a pas de devoir de justice vis-à-vis d'une poule, d'un ver de terre ou d'un pou, si vous voulez, mais la grâce et la bénignité aux autres créatures. Autrement dit, ne pas faire souffrir. Et les autres créatures, ce n'est pas seulement les animaux qui ont la sensation, c'est aussi bien les végétaux. Et de ce point de vue, Montaigne est l'un de nos premiers écologistes parce qu'il a le sentiment très fort, de l'unité de la nature. Nous en faisons partie, nous ne sommes pas au-dessus du reste, comme il dit. Deux, il nous remet à notre place, précisément, au sein de la nature, là où certains voudraient l'en extraire abusivement.
Merci André Comte-Sponville. Dictionnaire amoureux de Montaigne, c'est paru chez Plon et c'est beaucoup plus facile à lire que Montaigne dans le texte. Hein, il faut bien.
C'est ce que j'ai voulu faire, une introduction à Montaigne, qui soit aussi une anthologie et en même temps un essai personnel, puisqu'il s'agit de raconter, si j'ose dire, mon histoire d'amour avec Montaigne. Europe 1.